Vous allez écouter un roman feuilleton.
Belle amie de Maupassant, réalisé par les élèves
de 4e 6 du collège Barbara Hendrix d'Orange.
Après le départ de Charles Forestier à Cannes, Duroy signa ses premiers articles politiques. Mais un journaliste d'un petit journal, La Plume, l'attaqua. Après un échange d'articles insultants, Duroy fut contraint de se battre en duel avec le journaliste Langremont pour sauver son honneur et celui de la vie française. Les journalistes Jacques Rival et Borenard furent désignés comme témoins. Ils devaient organiser l'affrontement au pistolet pour le lendemain. Ils se rendirent dans un restaurant voisin. Duroy ne parlait plus guère. Il mangeait pour ne pas avoir l'air d'avoir peur. Puis, de retour au journal, il travailla de façon distraite et machinale. On le trouva crâne. Jacques Rival vint lui serrer la main et il fut convenu qu'on partirait de chez lui en landau le lendemain matin à 7h pour se rendre au bois du Vésinier où le duel aurait lieu. Duroy demeurait étourdi, effaré et ne comprenait plus ce qu'il se passait. Il se trouva chez lui le soir, tout seul. Il marcha pendant quelques minutes à grands pas vifs à travers sa chambre. Il était troublé et une seule idée emplissait son esprit, le duel du lendemain. Il avait été soldat, il avait tiré sur des Arabes, sans grand danger pour lui. D'ailleurs, un peu comme on tire à la chasse sur un sanglier. En somme, il avait fait ce qu'il devait faire. Plus tard, on en parlerait, on l'approuverait, on le féliciterait. Puis il prononça à haute voix.
Quel brute que cet homme !
Il avait jeté sur sa petite table la carte de son adversaire qui mentionnait son adresse. Louis Langremont, 176, rue Montmartre. Rien de plus. Puis il s'interrogea.
Qui est cet homme ? De quel âge ? De quelle taille ? De quelle figure ?
Il trouvait révoltant qu'un inconnu vienne déranger sa vie tout d'un coup. Sans raison, par pur caprice. Il répéta encore à haute voix.
Quelle brute !
Une colère s'éveilla en lui, puis il dit.
Allons, il faut être crâne.
Le son de sa voix lui fit tressaillir, puis il se coucha, mais se sentit fort nerveux. Il avait trop chaud dans ses draps bien, qu'il fit très froid dans sa chambre. Il avait encore soif. Il se releva et une inquiétude le saisit.
Aurais-je peur ?
Il se sentit profondément ému, qu'il se demanda à nouveau.
Peut-on avoir peur malgré soi ? Et si demain je tremblais ? Si je perdais connaissance ?
Et il songea à la réputation, à sa situation, à son avenir. Un singulier besoin le prit de se relever pour s'observer dans la glace. Il ralluma sa bougie quand il vit son visage reflété dans le miroir. Ses yeux lui parurent énormes et il était pâle, très pâle. Tout d'un coup, une pensée entra en lui à la façon d'une balle.
Demain à cette heure-ci, je serai peut-être mort.
Puis il fut pris d'un tremblement nerveux. Il eut subitement très froid et ses pensées devenaient fuyantes, douloureuses. Très tôt, le lendemain, Rival et Borenard vinrent le chercher. Il faisait très froid. La voiture allait en pleine campagne. Il était 9h environ. En chemin, Rival ne pouvait s'empêcher de parler.
J'ai pris les pistolets chez Gastine Renette. Il les a chargés lui-même. La boîte est cachetée. On les tira au sort d'ailleurs avec ceux de notre partenaire.
Duroy répondit machinalement.
Je vous remercie.
Rival insistait sur chaque point, faisant des recommandations minutieuses.
Quand on demandera « Êtes-vous prêt, monsieur ?» Vous vous répondrez d'une voix forte « Oui ». Quand on commandera « Feu », vous élèverez vivement le bras et vous tirez avant qu'on ne prononce « Trois ».
Et Duroy se répétait mentalement.
« Quand on commandera « Feu », je lèverai le bras. Quand on commandera « Feu », je lèverai le bras. Quand on commandera « Feu », je lèverai le bras.
Il apprenait cela comme les enfants pour bien se le graver dans la tête.
« Quand on commandera « Feu », je lèverai le bras. »
Duroy marmonnait toujours la même chose, en espérant qu'un accident de voiture lui permette de se casser une jambe. Puis il vit au bout d'une clairière une voiture. C'était son adversaire. Sa respiration devint pénible. Les témoins descendirent les premiers, puis le médecin et le combattant. Rival avait pris la boîte au pistolet et se dirigea vers les adversaires qu'il saluait avec cérémonie. Ils cherchèrent un lieu pour le duel, comptèrent les pas et enfoncèrent deux cannes dans le sol gelé. Puis il fit les mouvements du jeu de pile ou face. Le docteur Le Brumont demanda à Duroy.
Vous vous sentez bien ? Vous n'avez besoin de rien ?
Non, je n'ai besoin de rien, merci,
répondit Duroy. Il lui semblait devenir fou. Avait-il peur ? Peut-être, il ne savait pas. Tout avait changé autour de lui. Jacques Rival revint et lui annonça tout bas avec satisfaction.
Tout est prêt, la chance nous a favorisés pour les pistolets.
Et Duroy se répétait en lui-même.
Quand on commandera feu, je lèverai le bras.
On emmena les Dulys devant les cannes et une voix qui semblait venir de très loin demanda.
Êtes-vous prêts, messieurs ?
Georges Duroy cria.
Oui.
Alors la même voix ordonna.
Feu !
Il n'écoutait rien de plus, ne s'aperçut de rien, ne se rendit compte de rien. Il sentit seulement qu'il levait le bras en appuyant de toutes ses forces sur la gâchette. Il avait tiré tous les deux, aucun n'était blessé. Tout était fini. Ses témoins et le médecin touchaient Duroy, le palpaient et demandaient avec anxiété.
Vous n'êtes pas blessé ?
Duroy répondit au hasard.
Non, je ne crois pas.
Rival, le témoin, murmura d'un air mécontent.
C'est toujours comme ça avec ce sacré pistolet. On se rate ou on se tue. Quel sale instrument !
Duroy ne bougeait plus. paralysé de surprise. C'était fini. Il fallut lui enlever l'arme qu'il tenait toujours serrée dans ses mains. Il lui semblait maintenant qu'il se serait battu contre l'univers entier. Tous les témoins causèrent pour la rédaction du procès-verbal et on repartit. Ils déjeunèrent tous les quatre sur le boulevard. Duroy disait ses impressions.
Ça ne m'a rien fait, absolument rien. Vous avez dû voir le reste.
Rival répondit.
Oui. Vous vous êtes bien tenu.
Duroy se servit de l'événement pour rédiger un écho. Walter, le directeur du journal, vint l'embrasser.
Bravo, bravo. Vous avez défendu le drapeau de la vie française. Bravo.
Georges se montra le soir dans les principaux grands journaux et dans les principaux grands cafés parisiens. Son adversaire, Langremont, était également présent. Le lendemain, vers 11h du matin, Duroy reçut un petit bleu.
Mon Dieu, que j'ai eu peur. Viens donc tantôt rue de Constantinople, que je t'embrasse, mon amour. Comme tu es brave, je t'adore, Claude.
Il alla au rendez-vous. Elle s'élança dans ses bras, le couvrant de baisers.
Oh, mon chéri, si tu savais mon émotion quand j'ai lu les journaux ce matin. Oh, raconte-moi, dis-moi tout, je veux tout savoir.
Il raconta tous les détails avec minutie. Elle demandait.
Comme tu as dû avoir une mauvaise nuit avant le duel.
Mais non, j'ai très bien dormi.
Moi, je n'aurais pas fermé l'œil de la nuit. Et sur le terrain, dis-moi comment ça s'est passé.
Et Duroy fit un récit dramatique qui conclut ainsi.
J'ai eu tort de vouloir viser la tête. La résistance de la gâchette a relevé le coup. N'importe, ça n'a pas dû passer loin. Lui aussi, il tire bien, le gredin. Sa balle m'a effleuré la tempe. J'en ai senti le vent.
Clotilde de Marel était assis sur ses genoux et balbutiait.
Oh, mon pauvre chéri, mon pauvre chéri.
Vous venez d'écouter un roman feuilleton
Bel ami de Maupassant, réalisé par les élèves
de 4e 6 du collège Barbara Hendricks d'Orange.